Radio Kapi.
Comme vous pouvez bien le deviner, l'ouverture de ce journal, c'est bien entendu cet incident macabre en rapport avec l'attentat de Kasindi. Bilan non encore bien défini, 13 personnes tuées déclarées jusque-là et plusieurs dizaines de blessés, acte fortement condamné partant de la présidence de la République et jusqu'à l'église du Christ au Congo. Deux jours d'hommage à Patrice Emery Lumumba et Laurent Désiré Kabila, deux jours mémorables pour la RDC pour penser à la construction d'un patriotisme sur le fondement des idéologies nationalistes, estiment divers historiens que vous suivrez dans ce journal dans un reportage de Rosalie Zawadi. Anthony Mualushai, capitaine au sein de l'armée régulière et porte-parole des opérations Sokola 1, est notre invité en fin de ce journal. Il commente sur l'attentat survenu hier à Kasindi dans le Nord Kivu. Sous peu et avec vous, nous scrutons les différents aspects de l'actualité congolaise en ce lundi matin, fidèles auditeurs. Bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Comme première nouvelle en ce lundi 16 janvier 2023, sachez tout d'abord que le chef de l'État a signé une série d'ordonnances portant réaménagement et nomination au sein de son cabinet. Somme toute, c'est un cabinet qui voit son nombre revu à la baisse. Et pour ce qui est des réaffectations, sachez que Kahumbu Mandungu Bula, ancien coordonnateur du bureau de suivi et de contrôle du projet du port de Banana, est nommé conseiller privé du chef de l'État en remplacement de Fortuna Biseleli. Eric Nindou et Giscard Koussema sont maintenus à la cellule de communication du président de la République, respectivement au poste de directeur de la cellule de communication et directeur adjoint en charge de la rédaction, chaîne nationale et grand reportage. Tina Salama est confirmée au poste de porte-parole du chef de l'État. D'autres détails, c'est à suivre sur nos différentes plateformes numériques. Au lendemain de l'attentat à la bombe dans une église pentecôtiste, hier dimanche à Kasindi, à 80 km au sud-est de Beni, au nord Kivu, le bilan restait toujours difficile à établir. Des sources médicales avancent le chiffre des 13 personnes tuées, dont 7 femmes et enfants, et plusieurs dizaines de blessés, dont 7 graves. Les blessés sont internés à l'hôpital général de Kasindi, au centre de santé Usalama. Les services de sécurité affirment avoir arrêté un suspect de nationalité kényane. De son côté, la MONUSCO promet son appui à la prise en charge des blessés. Plus de détails avec Marc Marofimbo.
24 heures après ce tragique attentat qui a fait, selon des sources médicales et sécuritaires, 13 morts et 79 blessés, dont 7 graves, la cité de Kasindi dans le territoire de Beni peine à se remettre de cet acte terroriste. Certains témoins de l'événement, toujours sous le coup de l'émotion, parlent d'une scène presque apocalyptique. C'est le cas de ces fidèles de la 8e CEPAC de l'église protestante, sauvés de justesse des éclats d'explosion de cette bombe.
L'engin était enterré quelque part, juste là-bas à l'église. Il y avait beaucoup de gens à côté, maintenant une détonation là, grave. Vraiment une forte détonation. Donc ce sont les gens qui savaient qu'il y aurait l'engouement de personnes.
L'enquête semble aller vite. Quelques heures seulement après cette tragédie, les services de sécurité ont annoncé avoir mis la main sur le sujet kényan, considéré comme premier suspect. De son côté, la MONUSCO, qui s'est réunie en urgence dimanche à fin d'après-midi, promet un appui à la prise en charge des blessés. Ainsi, une ambulance médicalisée de la mission onusienne a pris la route de ce dimanche pour Kasindi. 5 autres vont suivre ce lundi matin pour évacuer vers Beni les blessés graves. La MONUSCO va également affréter les vols spéciaux ce même lundi pour l'évacuation, toujours à titre humanitaire, des cas considérés comme urgents. En attendant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles qualifient de défaillance des services de sécurité qui, selon elles, n'arrivent pas à prévenir ce genre d'actions terroristes dans ces territoires. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
En réaction, le président de la République condamne avec la plus grande fermeté cet attentat. Très attristé par ce crime odieux, le père de la nation présente ses condoléances les plus émues aux familles éplorées, rassurant que les coupables seront poursuivis, arrêtés, jugés et sévèrement punis, indique la presse présidentielle. Par ailleurs, sachez que le président Félix Tshisekedi s'est entretenu au téléphone le samedi 14 janvier dans la soirée avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Selon la presse présidentielle toujours, les échanges ont porté sur la situation de l'Est à la veille hier dimanche 15 janvier de l'échéance de l'ultimatum pour le retrait sans condition du M23 soutenu par le Rwanda des positions occupées. Sachez par ailleurs que le chef de l'État a quitté Kinshasa hier dimanche pour la Suisse où il doit participer au Forum économique mondial de Davos. Ce rendez-vous annuel qui rassemble les leaders mondiaux ouvre ses portes ce lundi 16 janvier jusqu'au 20 janvier 2023. Pour sa part, l'Église du Christ au Congo, dont est membre l'Église qui a été attaquée, déplore la mort de ses fidèles. L'ECC condamne cette attaque et présente ses condoléances à toutes les familles biologiques des victimes, tout en exigeant que des enquêtes plus approfondies soient ouvertes afin d'établir des responsabilités. Actualité toujours dans la partie est de la RDC, dimanche 15 janvier 2023, c'est la date limite qui avait été fixée par la feuille de route de Luanda au M23 pour quitter les zones conquises en territoire des Rutshuru et Nyiragongo. Le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda devait retrouver ses positions initiales de Sabinyo et Tchanzu, côté congolais, à la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Mais selon les observateurs, aucune avancée significative n'a été constatée sur le terrain. À Goma, les acteurs sociopolitiques dénoncent la violation des recommandations des chefs d'État de l'EAC et demandent une action militaire contre le M23. Le meurtre du médecin directeur de l'hôpital Daoungba dans le territoire de Mahagi constitue une grave violation des droits de l'homme qui doit interpeller le gouvernement quant à sa responsabilité de protéger la population. Déclaration du coordonnateur de la société civile de l'Ituri, Dr Ujuiga Towaso Ponet, médecin directeur de l'hôpital général Daoungba, a été tué par des hommes armés non autrement identifiés dans la nuit de vendredi à samedi. Au cours d'une conférence dimanche à Bunia, le coordonnateur de la société civile de l'Ituri indique qu'il est inacceptable dans une province sous état de siège que les groupes armés se comportent à mettre au vu et au su des autorités compétentes et des services de sécurité. Dieudonné Lossa demande au président de la République d'accorder une attention particulière à cette province victime des multiples exactions des groupes armés. On l'écoute au micro de Isaac Remoyope.
Nous sommes en train de nous demander si nous sommes dans quelle province, à plus sous l'état de siège, où on n'a pas droit à la sécurité. Un médecin qui est censé protéger et soigner et les miliciens et les hommes armés et les civils, on les tue par les armes, les personnels soignants, les malades de l'hôpital de Aoumba. Tous sont à débandade et cet hôpital visé aujourd'hui est parmi tant d'autres hôpitaux déjà cibles de groupes armés ou des hommes armés en Ituri. L'Ituri est considéré à ce moment comme une province orpheline où les lois sont faites par les groupes armés. Une province où les groupes armés sont à l'aise alors que la population qui est censée être sécurisée par l'état de siège est abandonnée en elle-même. Nous évitons l'état congolais. Le président de la République a dirigé d'une manière particulière une opération de sauvetage en Ituri.
Sachez que plus de 45 écoles sont fermées depuis le mois de décembre dernier dans les différentes localités qui ont été la cible des attaques des groupes armés dans les territoires de Djougou et Mahagi en Ituri. Selon des sources concordantes, les populations de ces entités ont fui pour s'installer dans des zones sécurisées. Pour les acteurs de la société civile, des milliers d'élèves ont perdu cette année scolaire car il n'y a pas d'espoir de retourner dans leurs villages qui sont sous contrôle ou la menace permanente des groupes armés. Isaac Remoyope, une fois de plus.
Dans les territoires de Mahagi, plus de 60 000 personnes ont fui depuis décembre les affrontements entre les milices Kodeko et Zaïre dans les chefferies des Angal, d'Alour, d'Uganda et des Walindouatsi. Environ 32 écoles dans ces entités sont fermées, affirme la société civile de Mahagi. Selon son coordonnateur adjoint, ces déplacés et leurs enfants ne peuvent pas rentrer dans leurs milliers qui sont occupés par la milice Kodeko. Il ajoute que ces assaillants ont pillé et saccagé ce dimanche matin des boutiques et une structure sanitaire au village Afoyorwot, Emmanuel Abekani.
Les Kodeko sont entrés dans une localité là d'Hernandez, il n'y a pas d'espoir. Et nous doutons même que l'année ici puisse connaître un raté.
Même décor dans les territoires voisins de Djougou où le groupe armé Kodeko a fait un incursion cette semaine dans une dizaine de villages dont Drodro, Blukwa, Largou, Nyamamba et Datoulé. Conséquence, au moins 15 écoles sont fermées. Le président de la société civile de Djougou demande au gouvernement de lancer des opérations de grande envergure pour permettre les retours des déplacés et sauver cette année scolaire. Charité Banza.
Nous demandons seulement qu'il y ait une opération militaire de grande envergure pour faire baisser ces armes-là et que comme ça les enfants prennent les coups.
De son côté, le gouvernement provincial rassure que des dispositions sont prises pour imposer la paix dans ces entités, signalant que plusieurs autres écoles ne fonctionnent pas dans les territoires d'Iromou, Mambasa et Djougou à cause de l'insécurité. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Retour dans le Nord Kivu. Le coût du transport des vivres en provenance du sud Lubero vers Goma a connu une hausse très sensible. C'est à la suite de la fermeture de la route Goma-Rutshuru fin octobre dernier, après l'occupation par le M23 des plusieurs agglomérations par où passe d'ordinaire cette route d'intérêt national. Non seulement le coût du transport est intenable, mais aussi le long détour par le territoire de Masisi sur une route en mauvais état fait que certains produits arrivent à Goma déjà détériorés.
le cas des cossettes de manioc qui, à l'arrivée, ne sont plus utilisables pour préparer le foufou, par exemple. Les opérateurs économiques du secteur sollicitent l'aide du gouvernement. Un reportage de Rosalie Zawadi.
Avant la guerre, les commerçants payaient 8 dollars par sac d'environ 120 kilos de manioc en provenance des agglomérations du sud Lubero, notamment Miowé, Miriki, Lusoa, Kaina et Kanyabayonga. Et en 24 heures, les manioc étaient livrés à Goma en bon état. Mais aujourd'hui, il faut débourser 20 dollars pour les mêmes services et patienter jusqu'à 3 semaines pour recevoir sa marchandise, parfois en très mauvais état. Madame Kabou Françoise, qui gère un dépôt de vivres au quartier Mabanga Sud, a perdu plus de 20 sacs de manioc. J'ai acheté sans savoir que les manioc étaient déjà détériorés. Ce sont mes clients qui vont découvrir par la suite que la farine n'était pas bonne et ils la ramènent au dépôt et je dois restituer leur argent. Je suis obligée de donner cette farine à ceux qui élèvent les porcs à un prix très faible. C'est vraiment une grande perte. C'est la population de Goma qui, finalement, supporte les coûts élevés du transport des vivres. Les mêmes sacs de manioc qu'elle achetait à 50 dollars avant la guerre se vendent aujourd'hui à 80 dollars. D'où cet appel au gouvernement de réparer la route Goma-Kitianga-Kanyabayonga pour faciliter la circulation des personnes et des biens en attendant la fin de la guerre dans les Rutshuru. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Jour férié ce lundi 16 et demain 17 janvier, le pays commémore l'assassinat des héros nationaux Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Nos héros nationaux sont pour nous un patrimoine. Leur existence constitue pour tout un peuple un engrais qui peut faire germer aujourd'hui des réalisations héroïques. Pour cela, il faut arriver à construire un patriotisme sur le fondement des idéologies nationalistes de Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. C'est l'avis de quelques historiens congolais contactés par Radio Okapi à l'occasion de ces deux jours d'hommage aux illustres disparus. Rosalie Zawadi.
Pour le professeur docteur en histoire Justin Agouma, rendre hommage à nos héros permet d'imprimer dans la mémoire collective congolaise l'image d'un Congo fort et victorieux à la lumière des exploits de ceux qui sont honorés. Mais ce travail d'éducation ne peut produire des résultats que si les jeunes d'aujourd'hui voient dans les aînés les besoins de ressembler aux héros, prévient le professeur Agouma.
Les autorités ont choisi quel modèle? Parce que les jeunes se réfèrent aux vieux. Quel est le modèle de nos vieux? La corruption, détournement. On doit maintenant vérifier dans le passé quel est le modèle à donner aux jeunes. On forme nos jeunes par rapport au modèle. Et quel est le modèle de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le modèle de Lumumba. Nous voulons le modèle de Laurent Désiré Kabila. Donc c'est le pays à la tête qui doit tracer la ligne de conduite. À suivre.
Il faut partager les mythes, forces, les parcours de nos héros pour nous construire l'image d'un Congo fort et victorieux. Les autorités, les adultes actuels et les jeunes, chacun à son niveau, devraient revisiter la vie de nos héros et puiser ce qu'il lui faut pour bâtir un Congo fort. Et ce travail doit être permanent et ne pas se limiter aux jours fériés réservés aux héros nationaux. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Le Congo est grand et attend de nous la grandeur d'esprit de Kabila père et de Lumumba. C'est le message transmis hier dimanche aux enfants de Beni par le Parlement d'enfants de cette ville. Le coordonnateur de cette structure de la jeunesse dans le Grand Nord dit édifier les enfants sur le modèle de vie de ces deux héros afin de relever les défis politiques que connaît le pays. Joël Kavuya Kamala est au micro de Marc Marofimbo.
Je vais commencer par Mzé Laurent Kabila qui a légué à la jeunesse le slogan « N'ai jamais trahi le Congo ». Le pays est sacré. Et si nos leaders comprenaient qu'ils peuvent avoir aussi à nous transmettre, nous les enfants d'aujourd'hui, ça permettra qu'on grandisse en sachant que le pays est sacré. Du côté de Emery Patrice, j'ai dit chapeau bas. L'autodépendance, l'autosuffisance. Il a montré en question que même si on est des enfants, lorsqu'il y a un problème dans la maison, il faut apprendre à résoudre les problèmes dans la maison. Ce sont deux leaders qui étaient un peu révolutionnaires, mais dans le sens de voir que la maison peut s'autosuffire. Le pays peut s'autosuffire. C'est question de mentalité. C'est question de volonté. Mais le Congo attend de nous, les jeunes, les enfants dévoués qui connaissent leur pays, qui connaissent leurs atouts, qui connaissent leurs forces. Et cela ramènera à ce qu'à chaque moment que nous commémorons Mzé Laurent, Emery Patrice Lumumba, nous prenons conscience. Voici ce qu'ils ont fait de bien. Voici ce qu'ils ont fait de mal. On peut relever le défi. C'est ça la grandeur de toute une nation.
Actualité internationale.
Après le Bénin, le chef de la diplomatie chinoise Qin Gang était au Caire ce dimanche pour des entretiens avec des responsables égyptiens et de la Ligue arabe. Il s'agissait de la dernière étape d'un voyage en Afrique qui visait à consolider les relations entre Pékin et le continent. Les liens sino-égyptiens et l'augmentation du nombre de touristes chinois en Égypte notamment étaient au menu des discussions. L'Égypte lutte depuis des années pour relancer le secteur touristique vital pour son économie. Qin Gang et son homologue égyptien Sameh Shoukry ont également abordé des questions régionales, notamment le conflit israélo-palestinien. Le 16e congrès des indépendantistes du Polisario au Sahara occidental se poursuit dans le camp des réfugiés de Dakar en Algérie. Ce vendredi, Ibrahim Gali, secrétaire général du Polisario et également président de la République arabe sahraoui, autoproclamé en 1976, s'est adressé aux plus de 2000 délégués rassemblés pour l'occasion et a appelé à l'adhésion à l'unité et aux options nationales contre les villes complots et les stratagèmes malveillants du Maroc, soulignant que la reprise de la lutte armée était l'expression de la position ferme de régie de l'occupation.
L'invité.
La bombe artisanale qui a explosé hier dimanche dans une église pentecôtiste à Kassindi, Loubiria, a tué plus de 10 personnes et fait plusieurs dizaines de blessés graves parmi les fidèles. Comment l'armée explique-t-elle cette situation pendant que des voix se lèvent pour déplorer les failles des services de sécurité dans cette région où ce genre d'attaque est devenu courant? Pour en parler, nous recevons le porte-parole des opérations militaires Sokola 1 dans la partie grand nord de la province du Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalusha s'entretient avec Marc Marufimbo.
Capitaine Anthony Mwalusha, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
26 ans après, la cité frontalière de Kassindi vient de connaître une attaque terroriste dans une église de la place, là où une dizaine de personnes seraient mortes. De votre côté de la sécurité, comment vous expliquez cette situation?
Ben, écoutez, nous avons déjà fait le nécessaire. Nous avons réussi à mettre d'abord la main sur un sujet kenyan qui était impliqué dans cet attentat. Et c'est ce qui est important pour nous parce que en exploitant les suspects arrêtés, tout laisse à croire qu'il s'agit bel et bien d'un acte terroriste posé par les terroristes ADF MTM pour accomplir, n'est-ce pas, sa volonté d'attaquer l'une des agglomérations, parce que c'est comme ça que les terroristes avaient déjà prédit depuis les fêtes de fin d'année. Nous avons alerté notre population, nous avons demandé à la population d'être trop vigilante, de ne pas se regrouper et de dénoncer les personnes suspectes dans nos milliers. Heureusement, nous avons travaillé ensemble avec certains de nos compatriotes qui nous ont aidés et aujourd'hui, nous sommes capables de mettre la main sur certains suspects qui sont encore dans les airs grâce à celui que nous avons arrêté. Donc, nous déplorons d'abord ce qui s'est passé à Kassindi. Nous présentons nos sincères condoléances à la famille qui ont perdu le leur et nous souhaitons bonne guérison à ceux qui sont blessés.
Une série d'attentats qui vient après plusieurs d'autres, si on peut citer à Beni, à Butembo, quelques jours après aussi les samedis des marchés de Beni, au marché d'Oicha et ailleurs, la population indexe déjà les services de sécurité pour failles de fonctionnement. Qu'est-ce que vous en dites?
Il faut mettre d'abord le point sur les i pour dire que ces actes se justifient tout simplement par les actions menées ces derniers temps dans la vallée de Mwalika par les FRDC qui a bénéficié l'appui de l'armée ougandaise, que ce soit dans Mwalika, que ce soit dans la chefferie de Watalinga, à Bachou. Nous avons mené vraiment des opérations qui ont créé vraiment des pertes en vie humaine du côté des ADF. Donc, il y a diminution de l'effectif du côté ADF, il y a réduction des capacités de nuisance de l'ennemi, mais c'est une guerre asymétrique, c'est du terrorisme, c'est-à-dire une seule personne peut créer des dégâts, comme aujourd'hui quand nous parlons de Kassindi, c'est une seule bombe déposée dans une église, et ainsi, et puis il y a des morts, il y a des blessés. Cela n'incombe pas seulement au service de sécurité, c'est le travail de tout le monde. Les services de sécurité travaillent sur base des informations que la population nous donne. La population, certains de nos compatriotes nous ont alertés sur les sujets suspects étrangers qui sont à Kassindi. Nous sommes en train de mettre la main sur eux. C'est ça ce que nous demandons à notre population. Cette bonne collaboration avec l'armée régulière, avec la police, avec l'ANER, avec les services de renseignement militaire. Nous devons accepter que nous sommes dans une zone où il y a le mouvement terroriste et nous devons nous unir et peaufiner des stratégies ensemble pour faire face à cette situation. Sinon, ça continuera ainsi des années et des années. Nous allons continuer à nous diviser, nous allons continuer à nous entrequiser et ce sont nous-mêmes Congolais qui sommes en train d'en pâtir.
Le mal est déjà dans nos murs et la zone est encore sous menace terroriste. Quel type de comportement vous pensez la population doit cette fois-ci adopter pour en être en abri?
D'abord, à la population de Kassindi qui est vraiment concernée pour l'instant, c'est d'éviter les attroupements. L'ennemi ne profite que le rassemblement pour nous faire mal. Et c'est la même chose que j'ai dit lors de l'incendie du marché Mayangose. J'ai demandé à la population de ne pas s'attrouper, de ne pas manifester comme vous voulez le faire. C'est un mouvement de pression. Nous devons éviter parce que l'ennemi peut nous profiter encore dans nos manifestations, dans nos rassemblements pour nous faire très mal. Nous avons encore des mauvais souvenirs de l'année écoulée. C'était le 25 décembre, ici à Béni, où nous avons encore perdu des gens qui ne veulent pas nous écouter, qui ne veulent pas faire confiance à l'armée régulière, mais qui ont des préjugés dans leur tête. Nous demandons encore à la population, une fois de plus, de continuer à faire confiance à l'armée, d'éviter le rassemblement populaire et de dénoncer les suspects dans notre milieu. Ça va nous aider vraiment à mieux à finir la situation des ADF dans notre région.
Capitaine Anthony Malouchai, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Capitaine Anthony Malouchai était notre invité. Il s'entretenait avec Marc Marofimbo sur l'attentat survenu hier dimanche à Kassindi-Loubiria. Fidèles auditeurs, et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette édition de journal préparée par Péléquipé Lamondo et l'ensemble de toute la rédaction. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre légendaire fidélité à Radio Capi.